VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Il est 19h30 en temps universel. Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, John Lydon à la présentation de cette édition du jeudi 13 avril 2023. Pour commencer, le sommaire. En Guinée, polémique autour du décès en France de Djéné Condé, l'ancienne première dame. Au Burkina Faso, le gouvernement adopte un décret sur la mobilisation générale. Au Soudan, tension entre Abdel Fattah Bourhan à la tête de l'armée et le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des forces paramilitaires. L'Arabie Saoudite accueille demain vendredi une réunion régionale pour amener la Syrie au sein de la Ligue arabe. Ici aux États-Unis, la pilule abortive suspendue la semaine dernière est temporairement autorisée à certaines conditions. L'administration Biden annonce qu'elle va saisir la Cour suprême pour protéger cette pilule. À suivre dans une dizaine de minutes, l'économie avec l'aide publique au développement qui a atteint un record de 204 milliards de dollars dans le monde. Et les sports avec Yacouba Ouidraogo qui viendra nous parler de la suspension de Sadio Mané. Mais pour le moment, le journal. Ouvrons donc par le Burkina Faso où le Conseil des ministres a adopté un décret portant mobilisation générale et la mise en garde. Face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso, le salut de la nation repose sur un sursaut national de l'ensemble des filles et fils en vue de trouver une solution, a indiqué le ministre d'État, ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly. L'adoption de ce décret portant mobilisation générale vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire. Il s'agit surtout, à travers ce décret, de donner un cadre juridique légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso. En Guinée, polémique autour de la dépouille de l'ex-première dame Djéné Condé. Son époux, l'ancien président Alpha Condé, ne veut pas que les cérémonies soient organisées par les autorités de Conakry. Son camp accuse l'une des filles de la défunte d'empêcher M. Condé de voir le corps de son épouse. Décédée samedi 8 avril à Paris, Djéné Condé doit être inhumée à Cancan, sa ville natale. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Incompréhension pour certains, manipulation pour d'autres, les commentaires fusent de partout. Depuis la publication d'un audio sur les réseaux sociaux, un échange présumé entre l'ancien président Alpha Condé et l'une des filles de l'ex-première dame. Les propos des deux interlocuteurs tournent autour de qui va organiser les funérailles. Alpha Condé avait fait une mise en garde il y a quelques jours, indiquant qu'il ne laisserait ni à l'ambassadeur de la Guinée à Paris, ni à aucune personne de s'occuper du décès de son épouse. Le soir de décès, le président de la transition avait loué les actions de l'ex-première dame, notamment dans la promotion des femmes et la protection des enfants. Il avait présenté ses condoléances aux familles Kaba et Condé, sans mentionner le nom d'Alpha Condé qu'il a renversé le 5 septembre 2021. Alpha Condé et ses proches accusent l'une des filles de son épouse d'avoir changé l'itinéraire de la dépouille qui était annoncé vers la Turquie où vit en exil l'ancien président guinéen. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Soudan, l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Bourhan qualifie de tournant dangereux le déploiement dans les villes des paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo. C'est le dernier épisode de la rivalité entre les deux hommes aux commandes depuis leur putsch en 2021. Le point avec Yacouba Ouidraogo.
De nombreux observateurs ont fait état de l'arrivée de blindés et d'hommes dans plusieurs villes, dont Khartoum. L'armée a confirmé une mobilisation et un déploiement dans la capitale et dans d'autres villes sur ordre du commandement des forces de soutien rapide, les redoutés ex-miliciens du Darfour sous les ordres du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emedikti. Ces mouvements ont été ordonnés sans l'approbation ni la moindre coordination avec le commandement des forces armées, accuse l'armée qui dit tirer la sonnette d'alarme face à un tournant dangereux et historique. Les forces de soutien rapide assuraient plutôt se déployer pour maintenir la sécurité et la stabilité en coordination avec l'armée. Le général Mohamed Hamdan Daglo, alias Emeti, demande l'intégration des paramilitaires au sein des troupes régulières avant un retour à la transition démocratique. L'armée ne la refuse pas, mais veut imposer ses conditions d'admission et limiter dans le temps leur incorporation. Le général Daglo réclame une inclusion large et surtout sa place au sein de l'état-major.
14 nouveaux cas de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés au large de la Tunisie, portant à 24 le bilan du naufrage d'un bateau qui se rendait clandestinement vers l'Europe. Les gardes-côtes avaient annoncé hier avoir récupéré 10 corps après ce naufrage qui s'est produit mardi à Méditerranée au large de la ville de Sfax dans le centre-est de la Tunisie. Un nouveau vaccin contre le paludisme développé par l'Université d'Oxford a reçu le feu vert des autorités ghanéennes pour être utilisé, une première pour ce vaccin qui suscite beaucoup d'espoir. Il a été approuvé pour les enfants âgés de 5 à 36 mois, la tranche d'âge la plus exposée au risque des décès dus au paludisme selon le communiqué de l'université. Le paludisme, maladie transmise par les moustiques, a tué 627 000 personnes, principalement des enfants africains.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'enquête sur la fuite de documents confidentiels américains avance, a affirmé jeudi le président Joe Biden, dévançant toute annonce des autorités américaines. Le Washington Post a rapporté mercredi que la fuite était l'œuvre d'un jeune homme ayant travaillé pour une base militaire qui a partagé ses informations sur un groupe privé en ligne du réseau social Discord. Le New York Times, de son côté, a avancé le nom de Jack Teixeira, 21 ans, membre du département de renseignement de la Garde nationale aérienne du Massachusetts. Selon le quotidien, un certain nombre de preuves le désignent comme leader du groupe et responsable des fuites. La pilule abortive dont l'autorisation a été suspendue la semaine dernière reste temporairement autorisée aux États-Unis, mais sous des conditions plus strictes, selon un jugement rendu mercredi soir par une cour d'appel. Claire Morin-Gibourg.
Un panel de 3 juges basé à la Nouvelle-Orléans a décidé par 2-1 de maintenir l'autorisation de la mifépristone, la pilule abortive, mais avec des limites. Pour y accéder, il faudra dorénavant 3 visites chez le médecin au cours de la période de prescription qui sera limitée aux 7 premières semaines de grossesse contre 10 auparavant. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi que l'exécutif comptait bien continuer à combattre devant les tribunaux. « Nous pensons que la loi est de notre côté et nous obtiendrons gain de cause », a-t-elle ajouté. Cette pilule avait été autorisée par l'Agence américaine des médicaments il y a plus de 20 ans, mais la semaine dernière, un juge du Texas, nommé par l'ancien président Donald Trump, avait retiré son autorisation de mise sur le marché.
À propos justement de cette pilule, l'administration Biden a annoncé jeudi qu'elle allait saisir la Cour suprême pour contester les restrictions d'accès à ce cachet décidé quelques heures plus tôt par une cour d'appel. L'Arabie saoudite se prépare à accueillir une réunion régionale pour discuter des relations avec la Syrie. Cela arrive au moment où s'effectue la réconciliation historique entre Riyad et Téhéran sous l'égide de Pékin qui pourrait redistribuer les cartes au Moyen-Orient. Le point avec Nani Talani.
La réunion se tient demain vendredi à Jeddah. Elle va réunir les représentants de 9 pays du Golfe, plus l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Selon Qatar, la rencontre va porter sur les discussions sur le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe dont elle a été suspendue fin 2011. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mokdad, a été reçu mercredi par son homologue saoudien, Faisal Ben Farhan, pour la première visite du genre depuis plus de 10 ans. Selon Riyad, ils ont discuté d'un règlement politique de la crise syrienne, parvenir à une réconciliation nationale et ramener la Syrie au sein de la Ligue arabe. Dans le même temps, une délégation iranienne est arrivée mercredi dans le royaume saoudien pour préparer la reprise des relations entre Riyad et Téhéran rompues en 2016. Ce rapprochement pourrait changer la donne régionale, notamment la guerre au Yémen, où l'Iran soutient les rebelles houthis et l'Arabie saoudite est à la tête d'une coalition militaire appuyant le gouvernement yéménite.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nathalie Barge.
Dans un nouveau rapport, la FAO dit que les femmes en Afrique et en Asie occupent une place marginale dans les systèmes agroalimentaires, dans la mesure où elles sont cantonnées à des emplois occasionnels, informels et peu qualifiés. Alors qu'elles sont souvent dépendantes de l'agriculture pour survivre, elles ont moins accès aux terres, aux intrants, financements et technologies. Selon le rapport, la part des hommes qui détiennent des droits de propriété ou garanties sur des terres agricoles est deux fois plus élevée que celle des femmes. L'aide publique au développement atteint un record de 204 milliards de dollars dans le monde l'an dernier. Voyons les dépenses pour l'Ukraine monter en flèche, indique un rapport de l'OCDE. Les États-Unis sont toujours le principal fournisseur avec 55,3 milliards de dollars, soit un quart de l'aide, devant l'Allemagne, le Japon et la France. La progression de 12,5% du soutien français est due à l'augmentation de son aide à l'Afrique subsaharienne et ses réfugiés. Mais d'une manière générale, l'aide consacrée à l'Afrique a baissé de 7%. Netflix va étendre ses opérations en Afrique en s'appuyant sur le succès de séries comme le feuilleton sud-africain Blood and Water, qui était en première place aux États-Unis. Le géant de la vidéo en continu en ligne a investi près de 177 millions de dollars dans la production de contenu cinématographique en Afrique depuis 2016.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors Sadio Mané suspendu pour un match par son club après son altercation avec le roi Sané.
Oui, l'attaquant international sénégalais sera absent du groupe du Bayern Munich pour le match de Bundesliga contre Hoffenheim ce samedi. Après la défaite munichoise en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le ton est monté dans le vestiaire entre Sadio Mané et son équipier Leroy Sané, le meilleur joueur africain de l'année 2022, reprochant à l'international allemand la façon de s'adresser à lui sur une action en fin de match, selon la presse allemande. Les deux joueurs ont participé à l'entraînement du Bayern Munich à la Sabener-Strasse ce jeudi matin. Thomas Tuchel prenant à part Sadio Mané quelques secondes. En plus de la suspension des matchs, Mané écope d'une amende, a expliqué le club allemand. Le Sénégalais de 31 ans sera à la disposition de son entraîneur Thomas Tuchel pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City, mercredi à l'Allianz Arena.
Thomas Siliaskos se retire du rachat de Manchester United.
L'homme d'affaires finlandais dit ne plus vouloir acheter le club anglais qu'il a qualifié de farce. Après le choix des propriétaires de Man U de lancer un troisième tour d'enchères, j'ai renoncé à participer à un troisième tour d'offres pour United. Ce processus vire à la farce avec la famille Glazer qui ne montre aucun respect pour le club, a dénoncé Thomas Ziliakus avec le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et le président de la Qatar Islamic Bank, le cher Jassim Ben Ahmad Ben Jassim Ben Jaber Al Thani. Ziliakus était le troisième candidat déclaré à une prise de contrôle du club. Il n'avait rejoint le processus qu'au deuxième tour d'enchères fin mars, alors que les deux autres avaient déposé une première offre dès mi-février. Les Glazers, qui n'excluent pas de rester à la tête des Red Devils, espéraient 6,8 milliards d'euros, mais les offres semblent pour le moment n'atteindre que 5,7 milliards d'euros. Actuellement quatrième de Premier League, Manchester United a remporté la Coupe de la Ligue cette saison et est encore en lice en demi-finale de la Coupe d'Angleterre et en quart de finale de la Ligue Europa.
Et ici, aux États-Unis, en NBA, Chicago enterre les espoirs de play-off de Toronto.
Les Raptors se sont inclinés 109 à 105 devant les Bulls menés par un Zach LaVine. Bagasikura.
Avec 39 points à lui seul, dont 30 après la pause, Zach LaVine a été le grand artisan de la victoire des Bulls sur le parquet des Raptors. Toronto a souvent eu le contrôle de la partie grâce au Camerounais Pascal Siakam qui a inscrit 32 points, mais insuffisant pour permettre à Toronto d'accéder aux playoffs. Ce succès permet à Chicago d'affronter Miami vendredi pour la 8e place des playoffs de la Conférence Est. De son côté, malgré l'avantage du terrain, la Nouvelle-Orléans a été battue par les jeunes d'Oklahoma City 123 à 118. Avec une moyenne de 21 ans, le 5 majeur a su résister à la pression des Pelicans. Le Thunder sera opposé vendredi au Minnesota Timberwolves pour une place en play-off de la Conférence Ouest.
Merci Bagassi.
Merci Yacouba. Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden avec vous. Place au dossier du jour. Au Nigeria, le gouvernement fédéral annonce à nouveau la fin du paiement de la subvention au carburant d'ici fin mai 2023, au moment même où le nouveau président doit prêter serment. L'annonce déclenche un débat et le sujet divise encore une fois. La question était un des principaux enjeux de la présidentielle du 25 février dernier. À Abuja, le reportage de Gilbert Tamba.
Pour le gouvernement fédéral, le paiement d'une subvention énorme pèse lourdement sur le budget du Nigeria. Les autorités fédérales ont donc annoncé encore une fois la suppression de la subvention sur le carburant avant la fin du mandat du président Muhammadu Buhari le 29 mai 2023. Charles Abayomi, expert en pétrole et gaz.
It is, however, something a bitter pill.
C'est pourtant quelque chose comme une pilule amère que nous devons avaler si nous voulons faire des progrès avec l'économie. Nous pouvons nous attendre à des troubles civils. Je pense que le mandat du président élu est quelque peu faible, ce qui provoquera des contestations à cet égard.
Les données disponibles ont montré que l'année dernière, le Nigeria a dépensé environ 3,27 milliards de naira pour subventionner le carburant. L'activiste Faith Mwadiji soutient la suppression de la subvention sur le carburant.
C'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons être courageux pour le faire, parce qu'il existe des alternatives. Le malheur est que le gouvernement ne discute pas de ces alternatives et qu'il n'a pas de plan concret et durable mis en place pour supprimer les subventions sur le carburant. Cela ne profite certainement pas à vous ni à moi. Lorsque vous raffinez un baril de pétrole brut, vous avez tellement de produits, notamment du kérosène, du diesel et tout cela. Le kérosène est celui que les pauvres utilisent, mais le kérosène n'est pas subventionné. Le kérosène coûte presque 1000 naira.
D'autres analystes estiment que le processus de subvention de l'industrie pétrolière est extrêmement inefficace et ne complète pas la recherche des revenus, n'a pas atténué les souffrances des personnes à faible revenu et n'a pas mis fin non plus à la pénurie persistante des carburants. Hawa Mustafa, spécialiste de développement à la centrale syndicale des travailleurs du Nigeria.
Pourquoi ne cherchons-nous pas d'autres options? Pourquoi ne recherchons-nous pas d'autres moyens là où il y a des fuites, afin de fermer ces fuites? Les fuites en termes d'impôts par les entreprises qui représentent des sommes colossales, de grosses sommes qui sont détournées chaque année. Des fuites en termes de corruption, des fuites même en termes de coûts élevés de la gouvernance.
Les Nigériens s'inquiètent des effets que la suppression des subventions sur le carburant pourrait avoir directement sur le prix de l'essence à la pompe.
S'ils suppriment cette subvention sur le carburant, sont-ils sûrs qu'il y aura du carburant disponible pour les consommateurs? Parce que j'ai vu beaucoup de gens souffrir pour obtenir du carburant. Et maintenant, ils veulent supprimer les subventions sur le carburant. Je sais que peu après la suppression de la subvention, il y aura augmentation du prix du carburant sur le marché.
Supprimer la subvention sur le carburant n'est pas un problème. Mais les Nigériens ont toujours promis de faire quelque chose. Mais en fin de compte, nous ne verrons pas l'impact. Donc, s'ils disent qu'ils veulent supprimer les subventions sur le carburant et qu'ils nous aideront, c'est une bonne idée. Mais quand ils suppriment et qu'on n'a pas vu d'impact, c'est qu'ils ne sont pas sincères avec nous.
Le gouvernement affirme avoir obtenu auprès de la Banque mondiale 800 millions de dollars pour répondre à certains besoins pour la période post-subvention pétrolière. Le Nigeria subventionne son industrie pétrolière depuis 1980. Mais le chef de l'État de l'époque, Olusegun Obasanjo, avait estimé que les Nigériens moyens ne pourraient pas se permettre un gallon d'essence à la pompe. Il avait introduit un plan de subvention pour baisser le prix de l'essence. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Cameroun, les enrôlements pour la couverture santé universelle ont été lancés hier à Mandjou, dans la région de l'Est, à plus de 260 kilomètres de Yaoundé, la capitale. Cette région est parmi les 5 du pays où certains soins vont être désormais administrés aux populations, soit gratuitement ou à moindre coût. Pour l'heure, les soins et services couverts sont d'ordre préventif et promotionnel. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Le gouvernement a opté pour une mise en place progressive de la couverture santé universelle. La phase 1 va toucher plus de 6 millions de personnes. Malachi Manaouda, ministre de la Santé.
Nous devons attendre à une amélioration de l'offre de soins, à un accès beaucoup plus amélioré également aux soins, parce que vous savez très bien qu'il y a une frange de notre population qui avant n'accédait pas aux soins simplement parce qu'il y avait des barrières financières. Eh bien, avec ce que nous avons commencé et les populations cibles aujourd'hui, ils peuvent avoir accès à ces soins sans toutefois payer directement ces soins-là parce que il y a un mécanisme de tiers payant.
Cette première phase, qui concerne 5 des 10 régions, va coûter 90 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques et financiers contribuent à hauteur de 48 milliards de francs CFA et l'État du Cameroun pour 42 milliards de francs CFA. Les précisions du ministre de la Santé, Malachi Manaouda.
Sachez très bien que nous allons rapidement et très vite en fonction des résultats que nous aurons sur le terrain. Nous voulons simplement demander à tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, de jouer son rôle. Je pense qu'on pourrait facilement aller rapidement dans le cadre de cette couverture de santé universelle.
Les soins et services couverts englobent la vaccination, la nutrition et les interventions de santé communautaire. Les bénéficiaires sont les femmes enceintes dans 5 régions, la Damawa, l'extrême nord, le nord, le sud, l'est et leur nouveau-né, Marie-Louise Nao, une bénéficiaire résidente de Batouri, dans la région de l'Est.
Il y aura beaucoup de changements. Les coûts sont devenus vraiment au niveau de tout le monde. La gratuité est là, les coûts sont faibles. Je crois que même dans nos communautés, dans nos fins fonds du village, il n'y aura plus trop de grincements dedans.
Les étrangers vivant au Cameroun, les enfants de moins de 5 ans souffrant du paludisme grave et simple, les personnes souffrant du VIH, l'oncocercose et de l'insuffisance rénale sont également concernées par la phase 1. Dr Fanuel Abimana, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, parle d'un jour historique pour le Cameroun.
Vous voyez aujourd'hui que les gens se font d'ores et déjà enrôler à la couverture santé universelle. Aujourd'hui, le taux est proportionnel à 7500 francs CFA et les gens se font déjà enrôler dans le système.
Grâce à la couverture santé universelle, les soins annuels d'hémodialyse passent de 720 000 francs à 15 000 francs CFA pour tous les malades enrôlés. Mais une loi doit encore être promulguée pour fixer entre autres les montants de cotisation, le niveau de plafonnement de l'utilisation des services et désigner la structure qui va collecter les fonds. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Une équipe internationale des scientifiques lance l'alerte. Il faut sauver le dauphin à Bosse qui, selon des défenseurs de l'environnement, est au bord de l'extinction. En 1997, le Sénégal a interdit les filets de pêche maillons qui menacent les dauphins et d'autres espèces marines. Certains critiques affirment que le gouvernement n'a pas fait appliquer la loi. C'est un reportage d'Annika Amerschlag depuis le delta du Siné Saloum au Sénégal, un récit de Claire Morin-Gibourg.
Le delta du Siné Saloum au Sénégal s'étend sur des centaines de kilomètres. La zone protégée est un riche écosystème composé de mangroves, abritant et protégeant une importante biodiversité. C'est aussi l'un des refuges du dauphin à bosse de l'Atlantique. Avec seulement quelques 1500 spécimens restants dans le monde, c'est l'une des espèces de dauphins les plus rares. Les scientifiques estiment qu'environ 300 vivent dans le Siné Saloum. Mais ils sont confrontés à de nombreuses menaces, notamment la pollution, le développement côtier et, le plus problématique, leur enchevêtrement dans les filets de pêche. Lucie Keith Diagne est la directrice du Fonds africain pour la conservation aquatique.
Les filets en monofilament sont extrêmement problématiques car ils sont très solides. Ainsi, lorsque les animaux se font prendre, ils ne peuvent pas se dégager. Et donc les dauphins, comme les lamantins, s'affolent quand ils se font prendre et ils s'empêtrent encore plus.
Les filets monofilaments sont transparents sous l'eau, ce qui facilite le piégeage des animaux sauvages tels que les requins, les tortues et les oiseaux marins. Parfois, les filets se perdent en mer où ils continuent de piéger la faune. Mais si ces filets ont été interdits en 1987 et la loi a été mise à jour deux fois depuis lors, ils peuvent encore être vus dans presque tous les ports de pêche et bateaux du pays. Diana Seck est assistante de recherche pour le Fonds africain pour la conservation aquatique.
Tout le monde sait que c'est illégal, mais c'est toujours utilisé car la loi n'est pas appliquée.
Des agents de l'État comme Samba Diaye, responsable d'une aire marine protégée, sont chargés de protéger l'écosystème unique du Sine Saloum.
Ici, on tombe sur quelqu'un qui utilise des types d'engins interdits dans l'aire marine protégée, donc on le sensibilise.
Mais lors d'une sortie en mer, pendant le tournage de ce reportage, lui et un autre officier n'ont pas verbalisé plusieurs bateaux qui transportaient ces filets illégaux. Le directeur des pêches maritimes du Sénégal, Diène Faye, insiste sur le fait que l'interdiction est appliquée. Mais il reconnaît que les filets sont toujours utilisés.
Voilà, même s'il y a un impact sur la ressource, je ne peux pas dire que c'est un impact qui est considérable parce que nous continuons à avoir des poissons.
Pour le groupe à but non lucratif Océanium, basé à Dakar.
De toute façon, les pêcheurs les utilisent, personne ne se cache. Hein. On ne se cache pas parce qu'au final, on ne leur dit rien. Hein. Chacun peut pêcher ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut.
Tant que les autorités n'appliqueront pas une interdiction stricte de ces filets, les défenseurs de l'environnement affirment que les dauphins et autres espèces marines du Sénégal continueront d'en payer le prix.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin affirme que l'Ukraine reste confiante dans son projet de contre-offensive contre les forces d'invasion russes, malgré l'apparition de documents apparemment classifiés des services de renseignement américains sur cette guerre. Le reportage de notre correspondante diplomatique Cindy Sen a été repris par Yacouba Ouedraogo.
Pendant que la guerre fait rage en Ukraine, les hauts responsables américains tentent de limiter les dégâts causés par la divulgation de documents militaires hautement confidentiels sur la guerre. Ces documents comprennent des diapositives décrivant les positions militaires ukrainiennes et des évaluations américaines du soutien de leurs alliés à Kiev. Mardi, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que personne ne sait avec certitude d'où proviennent ces documents.
Nous prenons cette affaire très au sérieux et nous continuerons à enquêter et à retourner chaque pierre jusqu'à ce que nous trouvions la source et l'étendue du problème.
À la question de savoir si le président ukrainien Volodymyr Zelensky devait modifier ses plans en vue d'une contre-offensive contre la Russie prévue au printemps, Lloyd Austin a répondu par l'affirmative.
Ils combattront l'ennemi et ne seront pas guidés par un plan spécifique. Ils ont un excellent plan de départ, mais seul le président Zelensky et ses dirigeants en connaissent tous les détails.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été interrogé sur les dommages que les fuites pourraient causer à la confiance des alliés des États-Unis dans le partage des renseignements à l'avenir.
En ce qui concerne les alliés et les partenaires en général et ces documents, permettez-moi de dire que nous nous sommes engagés avec nos alliés et nos partenaires à des niveaux élevés au cours des derniers jours, notamment pour les rassurer sur notre engagement à protéger les renseignements et, bien sûr, sur notre engagement à l'égard de nos partenaires en matière de sécurité.
L'une des fuites les plus préjudiciables concerne les États-Unis et leurs alliés, la Corée du Sud. Ben Hodge, ancien commandant de l'armée américaine en Europe, a expliqué le document à la VOA via Skype.
L'une des fuites indiquait que les États-Unis écoutaient apparemment des conversations au sein du gouvernement sud-coréen. Ils essayaient de comprendre si la Corée du Sud allait finalement accepter de nous vendre des munitions que nous pourrions soit donner directement à l'Ukraine, soit utiliser pour remplacer ce que nous avons donné à l'Ukraine.
Le ministère ukrainien de la Défense accuse la Russie d'être à l'origine de ces fuites. Les experts du renseignement affirment que le document contenant le nombre de victimes a été modifié pour réduire de plus de moitié le nombre de soldats russes tués avant d'être diffusé sur des chaînes Telegram pro-russes. Un porte-parole du Kremlin a déclaré que Moscou sait pertinemment que les États-Unis et l'OTAN sont impliqués dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine avant que les fuites ne fassent surface.
Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition réalisée avec la contribution de toute la rédaction. Présentation John Lyndon, production Michel Joseph. Merci à vous d'avoir suivi.
Et restez connectés sur notre site internet voafrique.com et sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube pour plus d'informations.